Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, je vous proposerai un premier écho du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras. Il s'agit d'un entretien avec l'écrivain italien Roberto Ferrucci. Puis ensuite, ce sera un tumulte musical. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1070. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et 23h, et sur le net radiopfm.com. Jean au micro, salut. Premier écho donc du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras, entretien avec l'écrivain italien Roberto Ferrucci. Roberto Ferrucci, nous sommes déjà rencontrés à Calais pour la manifestation littéraire et festive intitulée Entre les lignes. À ce moment-là, votre vision de l'Italie était particulièrement sombre, noire. Bon, depuis, alors que justement vous vous disiez que face à Berlusconi, vous auriez bien aimé que les femmes réagissent, les femmes italiennes réagissent, justement il y a eu des manifestations extrêmement massives en Italie portées par les femmes. Il n'y avait pas que des femmes dans les cortèges. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus optimiste ?
Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu des manifs, qu'il y a eu des protestations, mais en même temps, parce que c'est vrai que ici, il arrive naturellement la nouvelle, non? La manifestation, elle est soulignée, il y a eu des milliers de personnes qui étaient là. Bon, ça c'est vrai. Le problème, c'est que l'Italie aujourd'hui a un problème d'autoconsolation. Je ne sais pas si on peut le dire en français. Mais ça veut dire qu'on fait des manifestations, on se dit, bon, on a bien fait. On est bien avec notre conscience, mais toutes ces choses-là ne changent absolument rien. Ça veut dire que après, si je me souviens bien, c'était le 13 février qu'il y a eu la manifestation des femmes, c'était en février. Et rien n'a changé du tout. Berlusconi est toujours là. De jour à jour, jour par jour, c'est toujours pire. Un peu plus pire qu'hier, et demain sera encore plus pire, pire qu'aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas optimiste parce que je ne vois pas, on ne voit pas en Italie la lumière. Il n'y a pas une lumière qui est à l'horizon. Alors, chaque fois, la ligne se déplace peu à peu. Alors, aujourd'hui, on dit, bon, si la droite ne gagne pas les élections administratives à Milan et à Naples, alors Berlusconi tombe. Et chaque fois, on trouve un but, on trouve un sujet qui devient déterminant, mais quand il arrive, et même si l'espoir est positif, il y a les résultats, ne change rien du tout. Et ça, c'est vraiment épuisant, c'est quelque chose de très fatigant.
Je vais rajouter un peu à la noirceur, bon, involontairement, parce qu'en venant là, sur le chemin, vous m'avez parlé du 1er mai en Italie. Vous êtes à Arras pour le Salon du Livre du 1er mai, une manifestation liée à cette tradition de lutte internationale du 1er mai. Apparemment, en Italie, ça se détériore aussi sur cet aspect-là.
Oui, il y a une polémique très forte ces jours en Italie parce qu'il y a des maires de grandes villes, même des grandes villes de gauche, hein, parce que le berlusconisme a désormais envahi même la gauche. Le maire de Florence, qui est un jeune du Parti démocrate de 38 ans, qui s'appelle Matteo Renzi, c'est quelqu'un qui a trouvé très romantique aller à manger chez Berlusconi à Arcore dans sa villa et qui a fait une dédicace de son dernier livre politique pour le Premier ministre. Ça veut dire que la fascination de cet homme-là est devenue quelque chose de vraiment. C'est une maladie. C'est exactement une maladie. Et donc, alors lui, qu'il a dit que le 1er mai, il faut travailler parce que. On est en crise et alors la ville de Florence, lui, il a dit, les magasins restent ouverts, le commerce reste ouvert. Et même si les syndicats ont dit, ben non, c'est la fête du travail. Et j'ai vu aussi des interviews dans la rue, des gens qui disaient, mais non, c'est notre fête, il faut. Mais c'est vraiment le détriment des valeurs. Ça veut dire que quand on perd les racines avec des moments qui sont historiques, des moments qui sont d'une importance éthique, non? Et là, alors, c'est le bordel. Et l'Italie aujourd'hui, c'est un bordel. C'est un bordel pas seulement pour tous les putes de Berlusconi qui vont chez lui, mais c'est un bordel politique, éthique, moral, journalistique. Du langage, non, parce que la langue a perdu, il y a des mots qui ont perdu totalement sa propre signification. Le 1er mai en Italie est devenu aussi un moment de polémique. Et moi, je trouve absolument fou qu'en 2011, on est là à faire des discussions sur le 1er mai. Le 1er mai, c'est quelque chose que l'histoire a déjà déterminé, a dit. Point, non? Mais, vous savez, avec la démagogie, une démagogie qu'en Italie, on a eu toujours historiquement une tendance vers la démagogie, surtout au niveau politique. Mais c'est vrai que 15 ans de démagogie qui passent chaque minute, surtout à la télé, et en Italie, est devenu quelque chose qui peut mettre en discussion n'importe quoi.
Alors vous établissez un certain contraste entre la situation italienne et puis la situation en France. Nous, quand vous parlez de l'Italie, on a plutôt à y vo on remarque plutôt les ressemblances ou peut-être ce sont des traits avant-coureurs de ce qui nous attend en France. Bon, par exemple, la détérioration de la langue dans le discours, ben, on connaît ça avec Sarkozy. L'attitude des gouvernements, par exemple, par rapport aux migrants tunisiens, ben, on voit bien que Sarkozy et Berlusconi sont d'accord là-dessus. Vous continuez à maintenir que la France, c'est encore un refuge pour. Par exemple pour vous, papa refuge, peut-être pas ce terme-là.
Mon idée, c'est que la France a le grand avantage d'avoir l'exemple de l'Italie. Ça veut dire que c'est vrai que Sarkozy a essayé de faire semblant d'être un Berlusconi, mais Berlusconi, c'est, j'espère, hein, j'espère qu'il soit irrépétible, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas. On ne peut pas les rapporter à une autre démocratie. Parce que ici, en France, c'était impossible pour un entrepreneur comme lui, propriétaire de télévision, de journaux, de maisons d'édition, de banques, des assurances, de n'importe quoi. Parce que vraiment, lui, il est le patron de l'Italie. Et donc. Ailleurs, c'est impossible qu'un homme comme ça devienne Premier ministre. Et vous avez la chance d'avoir juste à côté de vous un exemple terrible. Et je crois que la grande différence, c'est que quand Sarkozy dit une bêtise, ici, il y a tout de suite une société civile qui dit non, non. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, je me souviens, j'étais là quand il a fait il y a eu cet épisode de ce vieux paysan qui a refusé de lui serrer la main à la fête de l'agriculture, à la foire de l'agriculture en 2008. Et lui, il lui a dit, alors casse-toi, pauvre con. Et le jour après, toute la presse, toutes les télés ont souligné ça. En Italie, Berlusconi dit ça chaque minute. vers n'importe qui et c'est toujours de la vulgarité, il est très offensif. Et donc, je crois qu'ici, vous avez des racines encore très fortes. Ça veut dire que si on peut voir une dérive, que c'est une dérive qu'on peut voir aussi partout en Europe, non? Une dérive démagogique, d'extrême droite, xénophobe, non? Bon, c'est vrai, mais il y a des démocraties qui ont la force de dire non. Et vous l'avez déjà fait en 2003. Et 2002, 2003, je me souviens plus, peut-être 2002,
2002.
2002. Et donc, je trouve qu'il y a cette grande différence. Et aussi, vous avez encore ici une. Bon, moi, je suis là à Arras pour ce salon du livre. Et ce sont des manifestations qu'il y a partout en France. Moi, je découvre jour par jour de salons, de festivals, de colloques. Des fondations qui organisent des débats, non? Bon, en Italie, on a perdu tout ça. Mais non, on ne l'a pas perdu dans ces dernières 15 années. Parce que c'est quelque chose qu'en Italie, on n'a jamais eu une idée. Vous savez, bon, le mécénatisme est né en Italie, non? Il y avait les mécénates qui donnaient de l'argent aux poètes pour écrire des poèmes, pour s'amuser le soir après le dîner. Bon, ok. Et on n'a jamais eu l'idée que la culture, c'est quelque chose d'institutionnel. En Italie, institutionnel seulement tout ce que regarde son propre richesse artistique, mais morte. Ça veut dire le musée,
Patrimoine.
le patrimoine, voilà. Mais qui est quelque chose bon, qui est mort, qu'il faut tenir quelquefois en vie. Et moi, je suis naturellement d'accord, c'est évident. Mais le présent, il n'existe pas. La production culturelle contemporaine est totalement, totalement ignorée. Surtout au niveau littéraire, parce que le niveau littéraire, c'est le moins visible, c'est le moins. Les artistes ont encore la possibilité de faire des performances, de faire des grandes œuvres, non, ou des installations. La littérature. Mais c'est vrai que ça, on n'a pas. À partir de l'après-guerre, surtout, on a eu des autres urgences. Et la culture était toujours la dernière urgence. Et pas la première, et pas ou une des premières. Et donc, Berlusconi a seulement souligné ça. Et naturellement, quand il a fait, quand il coupe le financement comme ça, personne ne dit rien, surtout, vous savez, il y a eu, il y a un fonds financier pour la culture en Italie chaque année, mais c'est pour les théâtres, pour les musées, voilà, pour l'œuvre lyrique, pour les orchestres, et pour les cinémas, qui est un fonds qui a été coupé. Et tout le monde culturel a protesté et ils ont dit, bon, alors on trouve la solution, on augmente un peu l'essence, la gasoline, là, et comme ça, on peut financer le spectacle, parce que c'est surtout spectacle. Hein. Quand on parle de culture en Italie, c'est le spectacle. Et comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une opération formidable parce qu'il a mis les gens, tout le monde qui conduit et qui a des problèmes économiques très sérieux, d'être contre la culture parce que ils n'ont pas eu le prix de l'essence baissé parce qu'il faudrait financer les théâtres, les cinémas. C'est une opération démagogique, naturellement, non? Évidemment. Mais elle était formidable parce que, en effet, les gens détestent. Ils disent, ah, je dois payer l'essence en plus parce que pour le théâtre, je m'en fous des théâtres, non? Voilà. Donc c'est compliqué. Oui.
Alors vous êtes invité par le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, donc 1er mai. Cette appellation, est-ce qu'elle elle est évocatrice pour vous, l'expression populaire, la critique sociale, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation?
Moi, je ne sais pas. Moi, je crois que pour un écrivain, il y a les livres qui parlent. Et si mes livres sont reconnus comme ça, moi, je suis heureux. Parce que je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu des doutes sur les rôles de l'écrivain. Non, je ne sais pas. Parfois, il y a quelqu'un qui pose la question, quel est aujourd'hui le rôle de l'écrivain? Bon, en Italie, c'est nul, le rôle de l'écrivain. Mais s'il y a un rôle, c'est d'essayer de raconter la contemporanéité, ce qui passe aujourd'hui, surtout quand tu es dans un pays qui est continu. Chaque jour est en émergence. Il y a toujours des émergences en Italie, non? La lourdure à Naples, le tremblement de terre en Abruzzo. Lampedusa avec les migrants tunisiens. Donc il y a toujours. Et je crois que on a un peu. Je ne sais pas si on a les droits, mais ou les devoirs de raconter ça. Mais moi, j'essaye de raconter ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, les journaux sont presque ignorés par les gens en Italie. En Italie, tout le monde regarde la télé, et la télé est une télévision totalement contrôlée par Berlusconi, et même les télés qui ne sont pas contrôlées par Berlusconi, pour être un peu vu, il faut aussi être un peu, non, berlusconienne. Et donc, la Berlusconi, il faut raconter la berlusconisation. Qu'est-ce que c'est la berlusconisation? C'est très compliqué. C'est pas le bunga bunga, c'est pas un homme très vieux qui est refait, qui est en plastique. C'est quelque chose qui est dans nous. Et là, je trouve que là, c'est la clé narrative intéressante qu'il faut essayer de. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres ou dans les articles, dans les journaux.
Alors vous avez écrit un livre, une biographie romancée d'un footballeur, Andrea Pirlo. Ce livre n'est pas sorti en français. Est-ce qu'on aura la possibilité de le lire bientôt en France?
Donc, il y avait la possibilité, j'ai lu que Pirlo vient jouer à l'Olympique Marseille. Alors, si Pirlo vient jouer à l'Olympique Marseille, peut-être. Mais je ne sais pas, parce que c'est un livre. Vous savez, il y a une sorte de comment dire. Les livres de football ou de sport sont vus comme quelque chose de pas trop littéraire, non, même s'il y a eu Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano, non, Umberto Saba qui a écrit des poèmes formidables sur le football, mais ils sont vus comme quelque chose de secondaire, et de complémentaire. Et donc, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien, évidemment, surtout parce que c'est pas un livre sur le football. C'est un livre sur l'imaginaire, c'est un livre sur un côté de nous que nous appartient, malgré nous. Même les gens qui disent non, je m'en fous de football. Hein? Mais si tu poses la question, Léo Messi, et quelqu'un dit ah, Léo Messi, oui, non, c'est. Ou quand il y a les championnats du monde aussi, non, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui passe, qui sont les joueurs. Donc c'est quelque chose qui, malgré nous, nous appartient. Et moi, j'ai essayé de le raconter d'un point de vue social, littéraire aussi, parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui sont des personnages romanesques. Et Pirlo, avec sa invisibilité, ça veut dire qu'il est un joueur formidable, très important, que quand il manque, tu vois quand il est important. On l'a vu dans le championnat du monde 2010. Mais quand il y a, il n'est pas quelqu'un de très, non, très sympa. Ou, il fait une vie discrète, silencieux. Et donc, Je racontais ça et surtout, lui, il est d'origine gitane. Et ça m'intéressait beaucoup parce que dans l'équipe de Premier ministre, qui est notamment contre les immigrés, les Roms, les Tziganes, voilà, avoir un joueur italien d'origine gitane, je trouvais ça romanesque aussi.
Justement, est-ce qu'il y a eu une réaction d'Andrea Pirlo? Est-ce que c'est quelque chose qu'il assume, cette origine gitane?
Donc moi je sais que lui, il n'est pas AC Milan n'a pas interdit de le dire, mais il a conseillé que c'était. Alors lui, il n'a jamais confirmé ça, il n'a jamais démenti aussi. Moi j'ai un très cher ami journaliste de la Gazzetta dello Sport, qui c'est l'équipe d'Italie. Et qu'il a dîné avec lui, et il a confirmé ça. Mais il y a des épreuves aussi. Il y a c'est vrai qu'il est comme ça. Donc, mais les réactions, non, parce que vous savez, les joueurs, je ne sais pas. Je crois que lui, il sait que le livre est sorti parce que. Toute la presse a parlé de ces livres, même la presse sportive. Donc, mais je n'ai pas eu de réaction. Mais moi, je n'ai cherché pas de réaction, naturellement. J'ai écrit un livre, point.
Alors, dans votre livre Sentiments subversifs, vous parlez aussi d'un joueur de football. Bon, parce que c'est un livre que vous avez écrit en étant en résidence à Saint-Nazaire. Et vous parlez d'un joueur polonais qui a joué à Nantes, si je ne me trompe, Christophe. Et bon, vous dites que sa référence est Maldini, même si Maldini est d'une génération suivante. Et j'ai trouvé ce chapitre, ce paragraphe, enfin oui, ce chapitre, très émouvant. Et je me suis dit, mais vous auriez pu faire un livre avec cette histoire. Parce que bon, il y a le père de Christophe, il y a. C'est une quasi-tragédie et en même temps, ça a l'air d'être un personnage assez fascinant.
Oui, il y avait aussi un épisode qu'on a décidé de couper parce que il n'est pas écrit parce qu'il ne pouvait pas venir en France à jouer et avant d'avoir l'âge de 30 ans, non? Il y avait deux possibilités. La première, c'était demander asile politique, mais c'était dangereux pour les parents qui restaient en Pologne, et sinon se marier. Et alors, il y a plusieurs jeunes joueurs polonais qui se sont mariés. Vous savez, les mariages en blanc, non, ça. Mais moi, à un certain moment, je me suis dit, mais. Je ne sais pas où est la femme, cette femme-là, je ne veux pas. Alors, je trouvais ça. On l'a enlevé, mais c'était un autre élément romanesque très fort. Et moi, je l'ai raconté. C'est vrai que c'est une histoire qui pouvait devenir un roman, c'est vrai. Mais je trouvais ça intéressant parce que lui, il a choisi Saint-Nazaire. Quand il est arrivé à Nantes, bon, il a commencé à avoir comment dire, la possibilité de s'acheter une maison. Et il a décidé par Saint-Nazaire. Alors, je trouvais que c'était vraiment un personnage de la ville. Et il est un personnage de la ville parce que sa brasserie, son restaurant est vraiment un point de central de la ville-port surtout, et pour les écrivains qui sont en résidence là, parce que c'est juste en bas du building où il y a. Et tous les écrivains passionnés de foot vont voir les matchs avec lui dans sa brasserie, c'est vraiment formidable. Et l'histoire m'intéressait parce que c'est exactement l'histoire opposée à l'histoire typique de joueurs de foot italiens. Ils deviennent tout de suite des petites stars, des petites étoiles, de football, même s'ils ne le sont pas, s'ils n'ont pas. Et donc, et tous ces clichés des joueurs très beaux qui ont des femmes ou des fiancés qui sont du monde du spectacle. Non, bon, là, il y avait une histoire de vie. C'était la vie. Et c'était comment une passion va déterminer ta propre vie, non? Et dans un endroit particulier, que c'était la Pologne des années 70, début 80. Et quand lui m'a raconté son histoire, je me suis dit, il faut la raconter. Voilà.
Là, vous voyez que ça aurait pu faire un livre, ça pourrait faire un livre encore.
Oui, sûrement, mais moi, j'avais envie vraiment d'avoir un autre personnage, un personnage apparemment atypique. Non, parce que bon, si vous imaginez Saint-Nazaire, c'est la ville port, c'est l'histoire incroyable, non, des gens qui sont passés par là pour aller dans l'Amérique latine. Il y a le chantier qui font les paquebots, il y a l'Airbus, il y a bon, même la fondation littéraire Mythe, non? Et bon, un footballeur, c'est quelque chose que non. Et c'est comme je disais avant, ça veut dire que c'est le football devient un élément très important de notre quotidienneté malgré nous. Et donc là, je l'ai raconté. J'ai trouvé aussi, c'était plutôt compliqué parce que le livre, c'est un narrateur qui dit je, qui raconte en disant je vais, je dis, non? Et mais raconter l'histoire de Christophe Frankowski, c'était la seule possibilité, c'était que c'était lui à raconter l'histoire. Et c'était plutôt compliqué au point de vue structurel. Et j'ai trouvé une solution qui, à la fin, était très simple, mais la trouver n'était pas simple. Et c'est lui qui raconte son propre histoire. Son propre histoire et bon, voilà.
On va passer de Saint-Nazaire, Villeport, ou ville bon, du Nord, ou du Nord du Grand Nord, l'Eurorégion du Nord, France et Belgique, par exemple. Vous avez été invité à Calais, donc c'est une ville-port. Vous êtes arrivé aujourd'hui à Arras, mais vous avez eu un petit aspect de la ville. Comment vous voyez les villes de la région?
Moi, j'aime énormément le nord de la France. Surtout parce que c'était mon premier rapport pas touristique, non? Avant, j'étais un touriste qui parfois venait ici, et naturellement surtout à Paris. Et donc, je suis arrivé ici en 2008 à Saint-Nazaire pour un mois et demi, avec la possibilité un peu de bouger, et après revenir régulièrement là. Et après la sortie des livres en France, je trouve qu'il y a une richesse, mais c'est vrai, bon, vous pouvez dire oui, mais vous êtes italien, l'Italie a une richesse géographique formidable. Mais ici, il y a. Moi, j'adore l'architecture. Et surtout le fait qu'ici, même chaque petit village a gardé sa propre histoire. Il y a eu un certain moment, surtout après la Deuxième Guerre mondiale en Italie, que presque tous les villages, surtout du nord d'Italie, a totalement décidé de couper le passé. Non? Et ils ont détruit des endroits qui étaient merveilleux. On a gardé les grandes villes historiques et surtout le centre de l'Italie et le sud de l'Italie. Mais au nord d'Italie, on a vraiment détruit. Moi, j'aime dire que c'était une sorte de solidarité vers les villes qui ont été détruites et bombardées dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais je sais que c'est pas pour ça. Je sais que c'était l'abusivisme, c'était plus bon, que c'était de l'argent qui vous savez. Alors le problème, c'est toujours ça, parce que quand on parle de l'Italie, il faut toujours se souvenir, et on n'est pas obligé de le dire, mais il faut savoir qu'il est là, et que l'Italie, c'est le pays de la mafia. Et donc la mafia, c'est un sentiment. Et le sentiment de la mafia, désormais, c'est vraiment partout. Non? Alors détruire et reconstruire, ça veut dire faire bouger l'argent. Et on a commencé très tôt en Italie à faire ça. Et donc, on a perdu le lien avec son propre village. Et ce qui ici est un rapport biologique et historique avec le territoire, en Italie, est devenue la démagogie. Ça veut dire la démagogie de la Ligue du Nord, non? Qu'il faut maintenir, sauvegarder les traditions, voilà. Et ce sont des traditions totalement inventées, qui non, la Padanie n'a jamais existé. C'est quelque chose d'idiot qui l'ont pensé un jour. Il ne connaît pas du tout l'histoire, non? Bon, et donc là. Ici en France, vous avez vraiment encore un rapport avec le territoire que nous, on n'a plus. Moi, je le vois, chaque petit village a son marché, non? Alors, c'est vrai, vous avez aussi l'hypermarché, naturellement, Carrefour, Auchan, voilà. Mais chaque petit village a son marché. Et les marchés qui sont survécus en Italie sont quelque chose ou de folkloristique, et ça veut dire touristique. Ou sinon, tu vas au marché et tu trouves la même chose que tu trouves au Carrefour. Alors, et moi, j'adore ça de la France. Et donc, j'essaye de revenir quand je peux.
Alors là, vous parlez au micro de PFM, une radio libre, associative, et le mouvement des radios libres en Italie a été extrêmement fort, et même il était avant-gardiste par rapport à ce qui s'est fait en France. On regardait beaucoup en Italie ce qui se faisait. Et c'était un mouvement de radio qui était extrêmement lié aux mouvements sociaux de l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la situation des radios en Italie?
Bah, vous savez que il y a une partie de mon roman Ça change quoi qui se passe à Gênes, où je raconte l'arrivée de la police à l'école Diaz, non? À travers la radio. Et c'était la radio qui racontait les jours de Gênes en 2001. Et la chose très intéressante, c'est que il s'agissait de la même dramaturgie de du Radio Alice, qui c'est une ancienne radio de Bologne, qui c'était une radio très forte au niveau social, politique, qui a été envahie par la police dans les années 70, et ils ont arrêté les gens qui travaillaient là. Mais c'était la même, c'était incroyable parce que il y avait l'entrée de la police en direct et les jeunes qui étaient au micro, soit dans les années 70, soit en 2000 ans à Gênes, on utilisait les mêmes mots. Et moi, je fais le rapport entre les deux moments, et c'était absolument pareil, non? Et donc là, je me suis dit, bon, tu vois, l'histoire se répète, mais en même temps, même les radios se répètent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore en Italie des radios qui sont des radios libres, qui ont une importance énorme, parce qu'ils sont une voix libre encore, et surtout aujourd'hui avec Internet, où on peut, moi, à venir, je peux tranquillement écouter PFM. Avant, c'était impossible, non? Et là, il y a encore cette C'est une tradition que justement, on n'a pas perdue. Moi, je me pose la question, qui encore aujourd'hui, au mieux, quel est le je ne sais pas comment l'appeler, l'écouteur,
L'auditeur.
l'auditeur idéal des radios libres aujourd'hui? Et combien ils sont? Non, moi je crois, je le vois en Italie. En Italie, les gens qui il y a des radios qui s'appellent Radio Sherwood, qui c'est une ancienne radio historique de altermondialiste, non? Mais bon, c'est moi qui l'entends. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est important qu'il existe. Mais je sais qu'ici, vous avez une tradition. Nous, on a une tradition historique parce que les radios libres sont commencées en Italie. Mais en même temps, ici, je vois que les gens, pour les gens, la radio est encore très, très importante. Non? Je vois tous les gens ici, le matin, non, sont France Inter, France Culture, voilà. Nous, on a perdu ça. Nous, on est pour la télé. La télé, la télé, la télé. Il y a n'importe quelle maison en Italie où la télé est ouverte 24 heures sur 24. Moi, je peux parler aussi de mes parents, si vous voulez. C'est comme ça, quand je vais les chercher, moi, j'arrive et j'éteins la télévision parce que je lui dis, écoutez, on est ici pour parler, pour... Et alors il faut résister et je suis très content d'être ici et c'était un peu... Moi j'ai travaillé dans les années 70, 80, début 80 dans des radios libres en Italie. C'était formidable parce que c'était vraiment la liberté. On avait une liberté totale de dire ce qu'on voulait, de faire entendre ce que vous voulez, de s'inventer des émissions politique, culturelle, vraiment formidable. Et c'était une expérience très importante pour moi. Et je crois que l'envie de raconter des histoires est même partie de là. Là, c'était un jeu, j'étais jeune, c'était facile prendre le micro et dire des choses, je crois, surtout des bêtises. Mais en même temps, c'était une expérience formidable, de grande liberté. Moi, j'avais les clés de la radio, j'entrais. C'était une radio importante de la ville de Venise. Et là, j'ai grandi. J'ai grandi, j'ai commencé à faire de... C'était vraiment le début. Alors, c'était très compliqué, il n'y avait pas de structure journalistique, non. Mais on s'inventait des choses. Moi, j'ai bougé avec un grand magnétoscope très lourd. C'était quelque chose vraiment Bon, c'était la fin des années 70. Et moi, je me souviens que je faisais des interviews avec ces choses-là, que c'était très compliqué. C'était impossible de faire du montage, naturellement. Et donc, vraiment, c'était une grande expérience, oui.
Alors pour terminer, il y a peut-être un lien, c'est la question de la technologie numérique qui est extrêmement présente maintenant dans le quotidien de tout le monde. Et dans vos écrits, c'est très présent aussi. Alors, donc on sent que ce n'est pas simplement un artifice d'écriture ou un levier d'écriture, c'est lié, on le sent, à votre vie et en même temps à votre manière d'écrire.
Oui, c'est aussi le fait qu'ils sont devenus des objets quotidiens. Ça veut dire que si dans les romans des écrivains américains des années 50, 60, il y avait la télé, le frigo, et aujourd'hui, c'est normal qu'il y a des téléphones portables, des ordinateurs, des PlayStation, parce qu'on le voit, non? Moi, j'étais en train avant de venir ici. À côté de moi, il y avait une jeune fille qui regardait un film dans son portable, dans son ordinateur portable. Donc tout a changé avec une rapidité incroyable, non? Alors mon intérêt, moi je fais aussi de la télévision dans les années 90, au début des années 90, en Slovénie, que c'était, où il y a une télévision en langue italienne pour la minorité italienne qui vit dans la ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, je me dis, mais regarde, moi je faisais des choses très compliquées parce qu'on avait. C'était compliqué d'aller partir pour faire une interview, je sais pas, à Wim Wenders plutôt qu'à Eddy Merckx, que j'ai rencontré les deux. Et aujourd'hui, je peux, si je veux le faire, je peux le faire avec mon iPhone, faire des vidéos formidables. Moi, parfois, je m'amuse à faire des vidéos avec tout l'editing très bien fait, les titres, mais c'est tellement simple qu'à la fin je le fais. Je me dis, bon, en même temps, non, parce que c'est vraiment incroyable ce que tu peux faire aujourd'hui. En 10 minutes, tu peux faire quelque chose qu'il y a 5, 6, 10 années, il faudrait une journée pour le faire. Et alors moi je ne sais pas parce que je sais pas les jeunes aujourd'hui la simplicité est quelque chose de formidable je trouve parce que je fais toujours une différence très forte entre simple et simplification non la simplicité c'est un parcours très compliqué pour y arriver la simplification c'est la banalisation et donc je ne sais pas, les jeunes. Moi, souvent, je vais voir qu'est-ce qu'ils font sur YouTube, s'il y a des gens qui inventent des choses. Mais c'est tellement, tellement facile que le risque, c'est de couper l'imagination, de couper la création, de couper les idées. En même temps, c'est quelque chose de tellement fascinant. Et pour un écrivain aussi, avoir la liberté de... Bon, l'écrivain a été toujours libre parce que ça suffit d'avoir un crayon. Seulement un crayon parce que tu peux écrire sur ta main. Ton corps peut devenir un papier. Non? Donc, mais c'est vrai que moi j'ai un blog, avoir la possibilité, je ne le fais presque jamais, mais avoir la possibilité d'être n'importe où et pouvoir écrire publier tout de suite ce que je veux dire, ce que je veux écrire, c'est quelque chose d'énorme, vraiment d'énorme. Tellement énorme que pour le moment, devient important seulement dans des moments très forts, comme en Syrie, dans ces jours-là, non? Tout ce qu'on sait de ce qui se passe en Syrie, c'est grâce à des portables. Qui tournent des vidéos souvent de très mauvaise qualité, mais qu'ils nous racontent ce qui passe là. Et là, c'est énorme, non? C'est le fait que la plupart de la printemps arabe qu'on voit, c'est grâce à la technologie, c'est quelque chose d'important qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué faire le dictateur. C'est très très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus cacher les choses, tu ne peux plus. Oui, tu peux tuer, tu peux continuer à tirer avec le fusil, à faire des lois. Mais c'est intéressant ce qui se passe là. Ici, on n'a pas encore trouvé, je trouve, je crois, là. Vraiment des idées qui, grâce à la technologie, peuvent vraiment changer des choses. Non. J'aimerais bien que soit Berlusconi ou Sarkozy tombent grâce à la création de jeunes qui commencent à faire des choses avec la vidéo, avec la photo, avec les blogs. Mais pour le moment, je vois pas ça. Merci.
Ok, merci.
C'était Roberto Ferrucci, écrivain italien, au micro de Radio PFM, et cela se passait au moment du Salon du Livre du 1er mai à Arras. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Quarante-cinq minutes de tumulte musical.
Ici à Sfax, ici à Sfax. Hierasus, Hierasus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous Delhi, à nous Delhi. Hierasus, Hierasus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous New York. Hierasus, Hierasus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur, à l'intérieur. Coule la Garonne, coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. Hierasus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur.
Alain Bachung, extrait de l'album Bleu Pétrole, paru en 2008. Les étrangers familiers, un salut à Georges Brassens. Les étrangers familiers qui seront présents en concert le samedi 25 juin dans le cadre de la fête de la musique, festival organisé par l'association Didouda. Et ce concert du 25 juin au casino sera en collaboration avec Radio PFM dans le cadre de son 30e anniversaire. Les étrangers familiers, Le Bistrot de Brassens, interprété par Loïc Lantoine.
Un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de creux, mère classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier, qu'une armure d'acier m'a te lasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Et que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, Wallace. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place, ses trésors exquis qui les embrasse, qui les enlace. Vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse. L'amour se fait vieux, il n'a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste ou gare à la casse. Car ce main qui claque, puni d'un flic flac, les audaces, certes il n'est pas né, qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornasses gros dégueulasses. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Loïc Lantoine et les étrangers familiers qui sont en concert à Arras le samedi 25 juin pour un salut à Georges Brassens dans le cadre de ce festival organisé par Didouda, Fête de la chanson. Et ce concert du samedi 25 juin se fait en collaboration avec Radio PFM dans le cadre du 30e anniversaire de notre radio.
I don't know what you're about.
Archive, dont le CD a quelques problèmes sur ce passage. On les retrouvera bientôt, hein. Promis. Kills.
Sinking echo, blow me away. 'Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise colder. It means so much to me.
nostalgia makes you live so easy. Luddites make it easy for me. Cause I'd rather be in this noise, suffocating this noise, it's colder.
C'était Archive, chose promise, chose due, extrait de l'album Noise. Nous avons eu plus de chance sur ce titre que sur le précédent. Tumulte sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. Extrait de la musique du film composé par Neil Young, film Dead Man de Jim Jarmusch.
Thank you. the uniform. Go for Agada, so take cover them boots.
Her beauty's like a
On a pu entendre Chaka des Mousses qui était précédé de Seun Anikulapo Kuti, extrait de son nouvel album Égypte 80, magazine Tumult sur le 99.9, toujours libre et sans pub. Le quartet Secrets, Mark Fellman au violon, Hurricane au piano, Greg Cohen à la basse et Joey Baron à la batterie.
Thank you.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h et à 23h30, pardon, à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. La semaine prochaine, nous retrouverons toute l'équipe Guy, Philippe, et nous aurons comme invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, l'économie en question. À la semaine prochaine, salut.